Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France, Michel Picot sur BFM Business.
De retour dans le Business Club de France, si je vous dis Nomen, pas sûr que vous connaissiez particulièrement le nom de cette entreprise. Elle est certainement plus connue pour les noms de marques qu'elle crée, ou qu'elle a créé. Je vais en citer quelques-unes, Pôle emploi, Wanadoo, Vélib ou encore Thales. Alors comment naissent ces noms de marques? Comment sont-ils imaginés? Sont-ils testés seulement? Eh bien nous allons parler avec certainement un des plus grands créateurs de noms de marques dans ce pays. Marcel Botton, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Plaisir.
Vous êtes le président fondateur de Nomen qui fête ses 35 ans de création de noms de marques. Petite question, quand vous avez créé cette entreprise il y a donc 35 ans, nous avions certainement moins besoin de nouveaux noms de marques, on va le voir dans un instant, du fait qu'il y avait peut-être moins d'acteurs, et je pense notamment au web, parce qu'il y a énormément de produits qui sont nés ces derniers temps. Mais vous, je crois que vous avez été agent immobilier, vous avez travaillé à la Caisse des dépôts, et puis un beau jour vous dites « tiens, je vais faire des marques ». Est-ce qu'on vous a pas dit « ça ne marchera jamais »
Si, mais mes bons amis, et y compris des gens tout à fait compétents, m'ont dit « mais tu peux pas créer une boîte qui fait ça, il n'y a pas de marché ». Ils m'ont dit, et c'était pas malice de leur part, c'est qu'ils pensaient vraiment qu'il n'y avait pas de marché. Mais c'est normal, je veux dire, si le marché avait été visible, j'aurais pas été le premier. Il faut à un moment donné prendre un espèce de risque absurde.
Mais c'était extrêmement innovant à l'époque.
C'était très inattendu. Alors, c'est lié de la rencontre avec Roland Moreno, qui est par ailleurs mon cousin, et on avait écrit un petit programme qui fabriquait des noms. Et on s'amusait comme des fous avec ce logiciel. Et ça nous a encouragés à dire, on va essayer de voir si par hasard, ça peut intéresser quelqu'un. Mais on pensait au pire qu'on en vendrait quelques-uns. Aujourd'hui, il y a 35 personnes qui travaillent à Nomen à plein temps, je n'aurais jamais pu l'imaginer, jamais.
Ouais, parce que jamais. D'autant qu'à l'époque, on avait le sentiment que c'était des grosses structures, de grosses agences de communication ou de publicité qui fabriquaient ces noms de marques. Et ce qui était assez drôle finalement, puis après on va rentrer un peu plus dans le détail, c'est que c'est Publicis qui est venu vous voir pour imaginer le nom d'une voiture Renault.
Bien renseigné, Monsieur Picot. Vous êtes bien renseigné, absolument.
C'est un peu mon job.
C'était mon premier client. Donc ils ont entendu parler d'un logiciel qui fabriquait des noms. À l'époque, un logiciel qui fabriquait des noms, c'était quelque chose de magique. Aujourd'hui, c'est un peu bateau, ouais. Mais bon. Donc ils m'ont contacté, ils m'ont dit viens nous montrer, c'était quelqu'un que je connaissais, viens nous montrer ton truc, ton logiciel. Alors je lui ai montré, il m'a dit écoute, j'ai une voiture, là on cherche un nom, est-ce que tu pourrais faire une recherche? Oui, bien sûr. Alors je peux peut-être dire aujourd'hui, maintenant il y a prescription, que j'ai fait tourner mon logiciel, mais que je l'ai un peu enrichi à la main.
Ouais.
Bon, à l'époque, je l'ai pas dit. Le logiciel fabriquait des noms, mais moi j'en ai rajouté aussi.
J'imagine. J'imagine. Vous allez nous
sans le dire. Sans le dire. Ouais, je l'ai mis dans le listing.
Ouais.
Et parmi ces noms, il y avait le nom Clio, qui par ailleurs est la muse de l'histoire. Et c'est devenu la Clio. C'était la première marque que nous avons créée. C'est devenu la Clio qui existe toujours 35 ans après.
Clio, c'est donc vous.
Oui.
1800 noms de marques qui ont été créés en 35 ans. 35 collaborateurs dans votre équipe, ce qui nous conduit dans les coulisses de votre travail. Alors, comment naît un nom de marque? Vous le disiez à l'instant, il y a un logiciel, mais il n'y a pas qu'un logiciel. Il y a quand même beaucoup de jus de cerveau là-dessous, non?
Alors, c'est le mariage de deux choses. La créativité, il y en a toujours eu. Les logiciels, il y en a toujours eu. Aujourd'hui, il y a une espèce de révolution dans ce métier qui est le data mining, les big data.
Bon.
Il y a aujourd'hui 20 millions de marques déposées en ligne, c'est-à-dire que les bases de données sont aujourd'hui accessibles en ligne. Et aujourd'hui, il faut combiner deux choses. Il faut être créatif, mais il faut en même temps aller voir ce qui est déposé pour voir ce qui est disponible. Bon. La révolution aujourd'hui, c'est d'aller chercher en permanence, avec nous on a fait un logiciel qui s'appelle Mars Browser, le butineur de marques, qui va explorer tout ça et dire voilà, là il y a des opportunités, il y a des marques qui se libèrent aussi. Il n'y a pas que des marques créées, il y a aussi des marques qui se libèrent. Et aujourd'hui, notre DSI, notre responsable informatique, devient un homme clé de l'entreprise. Avec toutes les équipes, bien sûr, mais il y a une véritable révolution de l'information.
Ah ouais, vous allez nous expliquer, parce que chez vous, il y a effectivement des gens qui cherchent, mais il y a aussi des linguistes, il y a des juristes, il y a des analystes. On va le voir dans le détail. Mais on va regarder, vous dites souvent que vous intervenez pour la création d'un deuxième nom.
Oui.
C'est-à-dire que là, c'est la conséquence j'ai presque envie de dire logique, de fusion, acquisition, rapprochement, changement d'activité, transformation des entreprises.
Il y a tout ce que vous dites, qui est très classique, hein, là il y en a encore aujourd'hui, mais il y a aussi quelque chose de nouveau qui sont les start-up, qui au départ ne savent pas forcément exactement quel va être leur produit ni leur marché. Donc ils se bricolent un petit nom, vite fait, un petit nom français, puis ça marche. Si ça marche pas, on n'en parle pas, mais si ça marche, d'un coup on s'aperçoit que le nom il est trop français, qu'il a un sens ridicule dans telle ou telle langue, et là on vient nous voir, on dit écoutez, on a un nom, mais là ça va plus.
Ouais.
Et donc on fait le changement de nom.
C'est l'exemple, on va en citer deux, c'était Polabox, je crois, oui, que vous avez rebaptisé Cheers.
Oui. Hein, oui, oui.
Ça vient d'où ça? Parce que là on est quand même, parce que Polabox ça rappelait Polaroid. En ouais. fait, il faut préciser que l'entreprise fait de l'impression de photos, hein.
Oui.
Voilà.
Ouais.
Ça vient d'où? Comment on est Cheers par rapport à Polabox? On est loin quand même.
Alors oui, en gros dans ce monde-là, les marques purement descriptives sont un peu compliquées à gérer parce que c'est compliqué à déposer, c'est pas toujours accepté partout. Et il faut chercher des noms qui apportent de l'affect, qui apportent de la jeunesse aussi au produit, à l'entreprise. Et donc ça, c'est un peu le travail de nos équipes,
hein,
ouais, nos jeunes.
Parce que vous êtes occupé notamment d'un site, on les connaît bien ici, c'était monéchelle.fr, hein, je crois, qui s'appelle Mano Mano. Là, je peux presque le comprendre assez facilement, parce que c'est une marketplace de bricolage.
Ouais.
Là, je le saisis mieux.
Ouais.
C'est quoi un bon nom? C'est un nom qui indique précisément l'activité de l'entreprise, qui est dans l'air du temps, qui crée de l'affect.
Alors, je vais décevoir un petit peu, mais je crois qu'aujourd'hui, un bon nom, c'est un nom improbable. Il y a 10 ans, un bon nom était un nom naturel, logique. Aujourd'hui, il faut que le nom dérange. Un Parisien connaît à peu près 2000 marques aujourd'hui. Vous arrivez, vous êtes la 2001e, il faut vous faire une place dans le cerveau de vos interlocuteurs et de vos clients. Pour se faire une place, il faut un peu déranger, quoi. Il faut se remarquer, se démarquer, je joue sur le mot marque, là, vous voyez. Et donc il faut une marque un peu improbable, il faut quelque chose qui contient des lettres bizarres par exemple, et on le remarque, on a fait une étude là-dessus, il y a de plus en plus de K, de W, de double O, de Q sans U, de tout ça, des choses un peu bizarroïdes. Qui...
Et c'est des tendances, parce que vous avez créé Wanadoo par exemple, à une époque tout s'appelait O.
Oui,
il y en avait partout.
Partout, absolument.
Et là aujourd'hui on trouve plus de marque comme
ça. Cette tendance-là est passée.
Ouais.
Mais les nouvelles tendances, c'est par exemple, je vous prends cet exemple, le Q sans le U,
qui
n'existe pas en français, hein, bon, sauf en finale, se développe. Bon, Kio, K-I-O, etc. C'est-à-dire des marques, appelons-les un peu bizarres, un peu inattendues, mais en fait, c'est des marques improbables, c'est-à-dire qui sont faites de combinaisons de lettres improbables.
Ouais, ce qui veut dire qu'il faut créer la surprise.
Oui, absolument.
Hein, mais ça doit nous donner quand même une signification de ce qu'on est, non?
Plutôt qu'une signification, je me méfie de trop décrire l'activité, parce que par exemple dans les start-up, l'activité elle change souvent en cours
c'est
de route,
vrai,
hein. Ils démarrent sur un truc et on s'aperçoit que c'est pas tout à fait ça qui marche.
Finalement ça sera autre chose,
oui. Oui, alors du coup on se retrouve à porter des noms qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on fait, donc faut faire attention. Et donc je préfère donner une ambiance, un ton, créer une connivence entre le client et le produit.
Et alors on va citer quelques autres marques qui bon, je parlais de Vélib tout à l'heure, on a parlé de Clio, Vivendi c'est vous aussi, Thales c'est vous également. Une fois ces noms trouvés, est-ce que vous avez des linguistes et des juristes, est-ce que vous les testez pour voir un peu comment c'est perçu?
Oh oui. Alors la plupart des marques sont mondiales aujourd'hui. Quand vous allez créer une marque, vous allez vous retrouver d'abord, cette marque va être utilisée, même si c'est une marque parisienne, prenons Vélib. Il y a 60 millions de touristes chaque année en France. Si jamais Vélib était un mot ridicule, ne serait-ce qu'en japonais ou en tagalog ou peu importe, ce serait dramatique. Donc il faut déjà interroger tous nos linguistes, on a 500 hein, dans le monde, 500 linguistes qu'on interroge, c'est pas des salariés, hein,
d'accord.
Bon.
Mais
500 linguistes qu'on va interroger pour leur demander si ce nom-là est acceptable dans leur langue. Et régulièrement, on nous retoque, on nous dit non, ça... Ça veut dire une grossièreté dans notre langue. Ah, bon, et on cherche autre chose.
Il y a des exemples flagrants. Hein. Nissan avait sorti une voiture qui s'appelle la Moco en Espagne. Et Moco, pardon, hein, mais ça veut dire crotte de nez. C'est un peu gênant. Mazda avait fait la même chose dans le même pays avec une voiture qui s'appelle la Puta. On ne dira pas plus loin, mais vous vous rendez compte quand même jusqu'où on peut...
Et Mitsubishi avait fait la Pajero, qui est la même chose.
Exactement.
C'est-à-dire branleur.
Exactement.
Donc ça arrive tout le temps. Donc il faut bien tester. Ouais. Ça, c'est sur le plan linguistique, mais aussi sur le plan juridique, bien sûr. Il faut que la marque soit libre.
C'est clair. Est-ce que des mots simples Je prends l'exemple, par exemple, on voit que Canal+ est en train de perdre le plus pour s'appeler Canal. Ça peut devenir une marque. Je vais plus loin. On est en pleine campagne électorale. Est-ce qu'un nom propre d'une personne, d'un homme politique, peut devenir une marque?
Si vous regardez les dépôts de marques, vous constatez que les hommes politiques déposent leur nom. D'accord. Donc la marque Fillon est déposée, Fillon 2017 est déposée, Marine Le Pen est déposée. Bon, les hommes politiques sont, c'est un bouquin que j'ai écrit d'ailleurs qui s'appelle « Les marques politiques sont des marques comme les autres », les noms des hommes politiques ou des femmes politiques sont des marques, incontestablement.
Donc ils ont tout intérêt aussi à la protéger, cette marque.
Parce Bien sûr.
Au-delà même de la breveter, enfin de la déposer, je dirais physiquement, il faut la soigner.
Absolument, il faut lui donner une image, il faut la nourrir, il faut faire du storytelling, ça a tous les attributs d'une marque. Il y a des petites différences aussi, une des différences, par exemple, entre une marque politique et une marque commerciale, c'est qu'une marque commerciale, si vous avez 48% du marché, vous êtes très content.
C'est clair.
Une marque politique, vous avez 48%, vous pouvez rentrer chez vous. Donc voilà.
C'est clair.
Je parle du deuxième tour de la présidentielle.
Encore des pense. Je pense à une. Après, on va parler des projets, bien entendu. Mais à une époque, on mettait du 2000 partout. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90. On mettait du 2000, ça fait moderne.
Il en existe toujours. Il y a l'optique 2000, je crois.
Je crois.
Toujours. Bon. Les grandes tendances, c'était aussi ce que vous avez évoqué, les doubles O, qui était une façon de dire informatique, nouvelle technologie, etc. Il y a aujourd'hui des tendances. Une des tendances qu'on a relevées dans cette étude qu'on va publier très bientôt, on vous la communiquera, c'est, je vous l'ai dit, la montée des lettres rares, K, W, Z. Ces lettres-là, on les voit sortir, monter aujourd'hui, et c'est une façon d'affirmer son originalité, quoi, de marquer un peu le paysage, de pas être trop lisse.
C'est clair, 35 ans d'existence. Avec du recul, comment vous analysez ce succès, et puis quels sont vos projets maintenant?
Alors, vous êtes gentil d'appeler ça du succès. Moi, je dis, j'ai été créé avant Google et je suis quand même beaucoup, beaucoup plus petit. Donc, c'est pas un succès faramineux.
Vous êtes là, sur un défi fou au début.
Je suis là, mais enfin, je suis pas Larry Page non plus. Bon, ça correspondait à un besoin. On y a répondu, ça nous a intéressé. Ça a intéressé pas mal de gens, les collaborateurs aussi. Ils sont précieux, maintenant il faut continuer à innover, il faut apporter des nouveaux outils, il faut aider les clients à se sortir de ce qui aujourd'hui ne marche plus, faut le dire. C'est, je cherche un nom, je regarde s'il est libre, je constate qu'il n'est pas libre et je recommence. Ça prend très longtemps et ça coûte très cher, c'est pas bon. Aujourd'hui il faut combiner la création et le data mining pour arriver à donner des réponses rapides et économiques.
Voilà, et dans cette, je dirais, économie qui bouge énormément, avec tout, je vous le disais tout à l'heure, transformation, fusion, repositionnement, ça crée de nouveaux noms, et c'est plutôt bien pour vous.
Là, pour nous, il y a la demande, elle est là, et elle est soutenue.
Merci en tout cas. Marcel Botton, président fondateur de Nomen, de nous avoir éclairé sur les noms de marques. Merci de votre visite.
Merci.